Alors, le féminin, pour toi, c'est pas important. Je veux dire, c'est pas quelque chose à partir duquel tu penses vraiment. Ou c'est. Mais c'est-à-dire, je vois bien l'opération de traduction, et je trouve. Mais dans la façon dont tu penses la traduction, c'est pas d'un original ou d'une langue source vers une langue cible. C'est que traduire montre que la langue au départ était déjà craquelée, ficelée, et pas seulement dans du féminin ou du masculin. Enfin, ce que ton travail, c'est d'essayer, c'est pas seulement aller vers l'autre langue, c'est aussi faire un retour sur la langue première pour montrer toutes ces.
En fait, les procédés de dégradation.
C'est ça.
Et souvent, je travaille dernièrement le rapport entre la traduction et la photo. Par exemple, où il y a des procédés qui se ressemblent. Et il y a justement au moment où l'image doit être, juste avant que l'image ne soit fixée et avant que le texte ne soit traduit, qu'il risque de tomber en morceaux. Et c'est justement ce moment-là qui m'intéresse. C'est la disparition de l'image avant même qu'elle ne puisse paraître. Mais c'est compliqué, cette question du féminin, parce que finalement, je veux dire, on peut bien, ça je le reconnais, on peut s'autodéfinir, on peut avoir un discours bien particulier, mais il faut bien exister dans le monde. Et là, on est sans cesse confronté
à cocher.
Voilà, non, c'est le regard de
l'autre. Ou même le regard, oui.
Sur soi. Alors on a beau, hein, on a beau dire, et puis depuis que j'enseigne, ça ne fait pas très longtemps, mais c'est sûr que ces questions-là reviennent sans cesse. Les rapports entre mes étudiants et mes étudiantes, là, je ne peux pas nier cette problématique, et elle est très vive, mais je m'en méfie aussi parce que j'y ai participé. Et la façon dont j'y ai participé, je trouve, a été... il y a eu un dogmatisme, une certaine idéologie qui s'est proposée, qui a été très séductrice. Et puis, je crois qu'il a finalement fait beaucoup de tort.
Tu n'es pas corps. Assez dans l'anecdote pour que je comprenne. Non, mais je te suis, mais...
Disons que les revendications identitaires des années 90, telles que moi, je l'ai vécues, ont été très fragmentaires. Et justement, c'est de là que ma méfiance de cette idée de communauté me vient. J'ai beaucoup participé aux revendications, aux manifestations, etc. Et je trouvais que ça a beaucoup divisé les gens. Ça n'a pas... Et là, je ne suis pas non plus convaincue que là où on en est maintenant, dans les discours très influencés par le post-structuralisme, soit forcément enfin, le sujet sans cesse... qui est difficile à fixer, je ne sais pas si ça répond non plus.
C'est très intéressant parce que j'essaie de comprendre là d'où tu parles. Si tu parles en tant qu'écrivaine, si tu parles en tant que femme remarquée par les autres, même si intérieurement tu peux dire parler de androgyne ou peu importe, mais c'est d'où parle-t-on? Moi, j'ai toujours dit que lorsque la féministe et la lesbienne ne trouvaient pas les mots, souvent c'est la poète qui allait les trouver. Ça, c'est certain. Mais on est devant une énigme, devant une grande problématique. Et dans la lettre aérienne, j'essayais de comprendre pourquoi les femmes s'éloignaient toujours des femmes. Parce qu'une dit... Une femme est une femme, tautologie sans intérêt. Une autre dit, une femme est un homme, bien sûr, on appartient à l'humanité, mais alors là, on est dans la contradiction totale, donc c'est encore cette double contrainte. Et l'autre va dire, mais une femme, la réponse est simple, une femme, c'est moi. Donc là, on retombe dans l'individualisme et à nouveau, on sépare les femmes les unes des autres, ce qui fait qu'on n'arrive jamais à une solidarité. Et,
ou comme la lesbienne n'est pas une femme aussi. Ça sépare les femmes, les femmes hétéros des lesbiennes. Là, on est aussi dans...
Il y a eu cette problématique qui a été effectivement...
Avec Wittig.
Oui. Et moi, j'ai toujours dit que je travaillais dans la cité des hommes parce que c'est là que se font les lois et que je veux avoir un regard sur les lois. Symboliquement, c'est toujours ce que j'ai dit, que je ne pouvais pas me retirer dans l'île.
Ok, donc il y a la poète qui peut parfois, qui a une autre parole, mais chez toi il y a quelque chose dans la cité qui est très engagé.
Qui est engagé dans la cité. Et j'ai toujours dit que j'écrivais sur deux pages. Une page qui était celle du désir et de l'utopie, et une autre page qui qui décrivait ce qui se passe dans la condition féminine, mm-hmm. chez les femmes, exactement. Tout ce qu'on a volé aux femmes mm-hmm. depuis les débuts de l'histoire. Et donc, pour moi, ces deux pages... Et les deux pages travaillaient en même temps, et c'est de là l'expression « la pensée de l'émotion et mm-hmm. l'émotion de mm-hmm. la pensée », c'est-à-dire que je ne peux pas penser sans émotion et je ne peux pas n'avoir que des émotions. Mm-hmm. Je ne serais pas confortable dans cette situation-là. Donc, c'est très complexe, toute cette question du féminin, mais une chose est certaine, il est infériorisé, et il est marginalisé. Mmh. Par exemple, dans tous les changements qu'on a vus concernant la femme, concernant les violences faites aux femmes, on dirait que la société a besoin de neutraliser ou de masculiniser. Par exemple, on dit les femmes sont victimes de viol. Ah oui, mais il y a des hommes aussi, il y a des enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Alors là, une fois qu'on peut neutraliser ou masculiniser, là, la société, ah, je comprends. Mmh. Mais, et donc, en quelque sorte, le féminisme est toujours condamné à être remarginalisé. Mmh. Car lorsque il s'agit d'une chose qui ne s'applique qu'aux femmes, c'est toujours plus difficile à comprendre et conséquemment, c'est toujours marginalisé. Et le seul pont qui peut se faire, c'est dans la mesure où on peut trouver des équivalences avec soit les enfants ou au masculin. Et à ce moment-là, la société dit « d'accord, on comprend, oui ».